l'ange du Seigneur annonce à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur, et elle conçut du Saint-Esprit. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair, et il a demeuré parmi nous. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Que ta grâce, Seigneur, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix jusqu'à la gloire de la résurrection. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Radio Présence, place du Capitole, 97.9.
Et on salue bien sûr tous les Toulousains qui nous écoutent à la place du Capitole. Je pense que la fête a dû être belle samedi soir avec le Stade qui est le Stade Toulousain qui est de nouveau donc champion du Top 14. Ben voilà, on salue et on bien sûr on félicite les Toulousains. Bonjour David Torchalam.
Bonjour Philippe. Bonjour tout le monde et bonjour les Toulousains.
Les Toulousains et bien sûr tous les gens de notre belle région qui nous écoutent entre 12h et 13h. Vous David, vous avez remis une chemise, un manche longue. Ça va mieux, la température.
Ah oui, ça va mieux. Oh, qu'elle était belle, cette pluie de cette nuit et de tôt ce matin. Oui, oui. Mais en fait, déjà, je crois que le soleil repointe un petit peu le bout de son nez à Lourdes. En tout cas, c'est vrai qu'on se sent bien et on respire bien.
Voilà, on va pouvoir retrousser un peu les manches. Et puis, moi, je vous amène sur le pic du Gers. Il y a quelques jours, a eu lieu une grande montée du pic du Gers, organisée par des militaires, le 35e RAP. Et il y avait du beau monde dans cette montée, puisque le préfet, M. Jean Solomon, et puis la colonelle, la première colonelle femme qui commande un régiment de parachutistes, étaient aussi de la partie. On les écoutera d'ici quelques instants. Et puis là, je suis sûr que ça va vous faire plaisir, on va rentrer dans les coulisses de la restauration sanctuaire à l'abri Saint-Michel.
Ah oui.
Ah voilà, avec Mathias Terrier dans le magazine de Passage à Lourdes.
Bonne
voilà
idée.
Le sommaire de ce magazine. Allez, avant de vous retrouver, David Torchalam, on retrouve l'essentiel de l'actualité de ce lundi et on retrouve la petite Clément Roux. Bonjour.
Bonjour à tous. Dans l'actualité, le Stade Toulousain est champion de France pour la 4e fois consécutive. Les Rouges et Noirs ont battu Montpellier 28-20 samedi soir en finale du Top 14 au Stade de France. Les célébrations prévues dimanche place du Capitole ont toutefois été annulées en raison des risques d'orages. Des orages qui ont traversé une partie de l'Occitanie ce week-end avec de fortes pluies, de la grêle et des rafales de vent. Malgré des précipitations, la sécheresse reste préoccupante en Haute-Garonne. Plusieurs cours d'eau sont désormais placés en alerte renforcée ou en crise, entraînant de nouvelles restrictions d'eau. L'inquiétude grandit chez Milan Presse. L'éditeur toulousain des magazines Jeunesse est concerné par un plan social. 27 suppressions de postes sont annoncées, soit environ 10% des effectifs. Enfin, un nouveau centre de santé ouvrira prochainement à Toulouse. Des médecins spécialistes retraités y assureront des consultations sans dépassement d'honoraires afin d'améliorer l'accès aux soins. Voilà pour l'essentiel de l'actualité.
Un grand merci à vous Clémence Roux, qu'on retrouvera tout à l'heure à 12h30 pour le journal de la mi-journée.
Présence dans la cité mariale, 96.6.
Et c'est dans votre compagnie, David Torchalam, que nous allons continuer ou débuter cette émission avec, on le disait hein, sous le ton de la plaisanterie, mais la canicule est derrière nous, en espérant qu'il n'y ait pas encore une troisième vague cette année. Ça a été compliqué, et puis on a vu des choses inhabituelles au sanctuaire. Par exemple, le candélabre en face de la grotte qui était vide.
Oui, c'est vrai. c'est peut-être un clin d'œil, mais qui en dit en fait beaucoup des conditions qu'ont dû traverser les pèlerins présents. Alors effectivement, dès vendredi matin, il y avait donc une cellule de crise qui s'est réunie pour faire le bilan de ces jours de canicule, parce qu'il faut toujours mieux se préparer, mieux anticiper, mieux coordonner en tout cas l'accueil des pèlerins pendant ces fortes chaleurs, parce qu'on le sait, ça va recommencer. Donc il faut en tout cas se préparer, alors notamment avec un signe fort. Vous avez été extrêmement nombreux à nous écrire, à nous téléphoner. Il n'y a plus de cierge sur le candélabre de la grotte. Eh bien oui, pendant ce temps de canicule, il nous a fallu ne plus déposer de cierge parce qu'ils tombaient les uns à la suite des autres, au risque en fait de tomber sur les pèlerins eux-mêmes hein, quand on traverse oui. la grotte. Hein, si vous pouvez voir les images qui sont toujours en direct sur nos réseaux, eh bien on voit évidemment les pèlerins quittant la grotte, se retournant pour un dernier regard sur la statue de la Vierge Marie, bien passer très à proximité de ce grand candélabre. Oui, parce que quand il fait chaud, eh bien évidemment la cire, eh bien elle fond plus vite, hein, c'est mathématique. Mais sur des cierges d'une certaine hauteur, eh bien ils tombent en fait littéralement. Et donc ça a été le cas aussi dans les chapelles de lumière, hein, là où les pèlerins viennent déposer les cierges, des petits cierges, des moyens cierges, et puis des très grands cierges. Et là aussi c'est assez difficile parce que les feutiers hein, du sanctuaire ont été tenus de arroser le sol pour éviter que la chaleur ne prenne et que le tout s'enflamme. Donc parce que l'idée était de ne pas non plus interrompre la prière des pèlerins et de permettre aussi à chacun de pouvoir déposer un cierge, mais vraiment sous haute vigilance et haute sécurité. Voilà. Alors évidemment, ça donne des scènes hors des habitudes en voyant bah, des cierges qui habituellement sont bien droits, bien rangés, etc. Se courber les uns à la suite des autres. Mais voilà. Donc ça fait partie un des enseignements encore hein, supplémentaires de cette canicule. Mais en fait. Toujours de pouvoir continuer comme on a pu le faire, de déplacer en fait les célébrations, de pouvoir venir se réfugier à la basilique souterraine Saint-Pédis, même si elle aussi, le fait qu'elle soit sous terre, qu'elle fasse 200 mètres de long, qu'elle fasse plus de 5000 mètres cubes de volume, eh bien là aussi il faisait malgré tout chaud. Et voilà, en tout cas c'est toujours, on sait pouvoir compter sur l'agilité, le sens de l'adaptation, tant du personnel du sanctuaire comme des hospitaliers qui accompagnent particulièrement les malades pendant le pèlerinage, ben voilà, de pouvoir s'adapter, de pouvoir hydrater, demander aux bénévoles de distribuer de l'eau, alors pas seulement de l'eau de la source, mais là aussi il fallait pas mal de petites bouteilles d'eau, et puis voilà, s'assurer que tout le monde puisse se couvrir la tête. Donc voilà, encore une fois, en tout cas des enseignements, c'est ça que ça nous donne en tout cas, hein, une canicule, des enseignements pour continuer et mieux préparer les jours chauds qui je crains vont arriver dans pas très longtemps.
Qui devrait peut-être revenir. C'est un enseignement aussi. Chaque fois qu'il y a voilà des aléas climatiques, le sanctuaire répond toujours présent et trouve des solutions.
Oui, parce qu'en fait, ce serait beaucoup plus simple de fermer les portes, je vais vous dire. Mais finalement, les portes du sanctuaire, elles restent ouvertes et elles demeurent toujours ouvertes. Et puis on ne demande à personne. Hein, voilà, tout le monde arrive et tout le monde entre de manière spontanée de minuit à 5h du matin. Donc avec des amplitudes. Immense, avec aussi beaucoup de portes ouvertes. Et donc, ben voilà, ça demande de l'adaptation, de la vigilance, et puis aussi un peu de technicité, voilà, tant dans les inondations que dans la canicule. Mais ben c'est ça, hein, il faut savoir s'adapter. Alors, vous savez, il y a aussi des pèlerins qui ont l'habitude. Quand on a déplacé la procession mariale le soir de canicule à Basilique Saint-Pédis, les Français étaient bien contents, mais les Espagnols du Sud nous disaient, mais enfin, nous, on a l'habitude de ces chaleurs. Il faut savoir composer avec, ben voilà, c'est le monde entier qui vient à Lourdes, donc il y a des peuples qui ont plutôt l'habitude de la chaleur, j'ai parlé des Espagnols, mais ils sont aussi de bien d'autres continents, et donc voilà, il faut savoir s'adapter, mais surtout mettre chacun en sécurité.
Oui, ça c'est le maître mot du sanctuaire. Alors ben, malgré la canicule, l'été débute, hein, et alors au sanctuaire, on peut venir bien sûr passer une journée, il y a des propositions. Hein.
Oui, il y a beaucoup de propositions, et puis en plus on profite aussi de la présence de nombreux bénévoles qui sont là pour vous accompagner. Je pense particulièrement à cette visite guidée sur les pas de Bernadette. Vous savez, c'est ce chemin qui traverse la ville, qui nous amène sur les lieux où a vécu Bernadette. Je pense au moulin de Boli, je pense au cachot, on voit également la paroisse et avec les fonts baptismaux où elle a été baptisée. C'est un formidable moyen pour ceux qui ne le connaissent pas ou ceux qui l'ont déjà fait et qui veulent le refaire, de vraiment entrer dans l'histoire, dans l'intimité d'une sainte qui est Bernadette Soubirouze. C'est une visite guidée en petit groupe qui est animée, comme je le disais, par un bénévole, animateur. On n'est pas avec des audio guides dans les oreilles. L'idée, c'est vraiment de pouvoir partager, passer un bon moment. Ça dure 1h30. Donc, il y a un petit peu de marche à travers la ville. Mais c'est une marche qui est tout à fait facile et adaptée aux familles. Et aujourd'hui, on peut réserver sa place auprès du centre information directement sur le site internet du sanctuaire lourdes-france.com, et ça permet de voir les places restantes. Il faut se dépêcher parce que ça part assez vite. Et puis ça me permet aussi de mettre aussi en lumière cette conférence qui a lieu tous les jours par les chapelains du sanctuaire, comprendre le message de Lourdes. Parce que c'est vrai, parfois on vient à Lourdes, alors on va voir les lieux de vie de Bernadette, on vient voir les basiliques, on se prend en photo, mais parfois on passe aussi à côté de l'essence même du message de Lourdes qui a été délivré par la Vierge Marie. Et bien voilà, l'idée de prendre le temps, 30 minutes, c'est court, mais de rencontrer un chapelain, donc un des prêtres qui compose la communauté des chapelains au sanctuaire, pour bien voilà revenir, poser des questions, comprendre en tout cas l'essence même de ces apparitions de Lourdes, et puis toujours leur actualité. Là aussi, c'est possible de réserver sur le site du sanctuaire. Et puis, puisque j'ai encore la parole...
Oui, vous l'avez.
Oh, merci Philippe. Je tiens particulièrement à pouvoir communiquer cette formation. Un très bel événement va se passer ce week-end, les 3, 4 et 5 juillet. Ça fait 3 jours. C'est donc un triduum qui est dédié pour le bicentenaire de la naissance du père Marie-Antoine de Lavore. C'est l'une des plus grandes figures franciscaines du 19e siècle, souvent surnommée le saint de Toulouse. Alors beaucoup le connaissent. Pour ceux qui ne le connaissent pas, simplement un tout petit point d'histoire rapide. Né en 1825, il est devenu capucin, voilà, sous le nom de Marie-Antoine. Il a consacré plus de 50 ans de sa vie à parcourir le sud de la France pour annoncer l'évangile. On dit de lui que c'est un missionnaire infatigable, un prédicateur populaire, vraiment proche des personnes les plus pauvres. Et aujourd'hui, donc, il est élevé au rang de vénérable depuis l'année 2020. Et donc, on espère bien qu'il continuera, et en tout cas qu'on portera pour lui le chemin de la béatification. Mais alors, pour Lourdes, le père Marie-Antoine, il est, je pense, on peut dire un peu plus, bien davantage, quoi, finalement, qu'un grand prédicateur, parce qu'il est considéré comme un apôtre, vraiment, de Lourdes, parce que très tôt après les apparitions de 1858, eh bien, il comprend l'importance spirituelle de ce lieu et il contribue largement à faire connaître le futur sanctuaire, en tout cas cette grotte des apparitions, et particulièrement le message qu'a délivré la Vierge Marie. Alors il va être là pour participer au développement des premiers pèlerinages. On dit également de lui qu'il a aussi donné naissance à la procession mariale au flambeau, cette procession qui se passe aujourd'hui encore tous les jours, d'avril à octobre à 21h au sanctuaire. Et donc ben voilà, ce week-end c'est l'occasion, on marque le bicentenaire du saint de Toulouse, et donc les festivités vont démarrer déjà vendredi soir le 3 juillet avec une messe d'ouverture à 18h30 à la basilique du Rosaire qui sera présidée par le recteur, le père Michel Dauban, et puis évidemment la traditionnelle procession flambeau. Ah ben oui, on célèbre l'inventeur
à l'extérieur.
Alors, évidemment, on ira à l'extérieur et à 21h, et puis samedi sera consacré plutôt à la découverte de la spiritualité franciscaine, voilà, tout l'héritage que nous laisse le père Marie-Antoine, avec au programme des conférences, la présentation d'un florilège de ses écrits, un chemin de croix aussi inspiré de ses méditations, puis une grande veillée de prière chez les Clarisses, vous savez, c'est ce monastère qui est tout près du sanctuaire, dans le cœur de la ville, où elles vivent les Clarisses en clôture, voilà, et ça se fera autour de la relique du cordon de Saint François d'Assise, voilà, puisqu'en cette année on célèbre également le 8e centenaire, oui, c'est à peu près ça, de sa naissance au ciel. Et puis dimanche, voilà, la messe sera célébrée à 10h à la grotte par Monseigneur Éric Bidot, c'est l'évêque de Tulle, mais il est aussi capucin, et on est très content parce qu'on l'a accueilli en tant que capucin quand il était à Lourdes avant d'être évêque. Et donc cette messe sera suivie ensuite d'un chapelet en famille franciscaine, et puis voilà, des conférences, etc. On découvre toutes ces informations sur le site Marie marieantoine.com. Voilà, avec cette formidable association qui continue à faire rayonner l'œuvre du Père Marie-Antoine. Donc voilà, si vous ne connaissez pas encore cette figure, venez la découvrir. Et puis si vous la connaissez, ben, venez approfondir avec cette association très 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 dynamique, et avec aussi la communauté des Capucins de Lourdes qui vivent à demeure dans le sanctuaire.
Et je rappelle que si on n'a pas eu le temps de tout noter, eh bien toutes ces informations sont bien sûr sur le site du sanctuaire. Hein.
Oui, mais vraiment, allez sur marieantoine.com. Pour le coup, ils sont encore un peu plus complets que nous. Mais évidemment, sur le site du sanctuaire, on saura vous le dire, en tout cas sur les réseaux sociaux.
Termine par quelque chose qui m'a attristé, puisqu'on a l'habitude le soir de faire le chapelet italien. Et puis, le père Nicola Ventriglia nous a malheureusement annoncé le décès du père Palmiro de Lalio, qui était OMI et qui nous a quittés le 24 juin et qu'on retrouvait le soir, et qui animait aussi cette prière du chapelet depuis la grotte pendant quelques années.
Voilà. Oui, c'est vrai. Le père Palmiro, qu'on aimait beaucoup au sanctuaire, un noblard, de Marie Immaculée, voilà, un beau missionnaire. Mais je pense qu'il faut se consoler, parce qu'on fait tant prier tous ces Italiens depuis la télévision et toutes ces retransmissions en direct depuis la grotte de Massabielle, chaque soir à 18h. Donc voilà, on espère et on pense vraiment que le père Palmiro a une bonne place au ciel.
Oh oui, je l'espère. Bravo. Merci beaucoup, David Urchara. Et puis on se dit à la semaine prochaine.
Oui, je serai là, promis.
Vous sûr?
Ouais. Allez, à la semaine prochaine. Merci.
À Salis du Salat, 94.1.
Je me souviens, on avait des projets pour la terre, pour les hommes comme la nature. Faire tomber les barrières, les murs, les vieux parapets d'Arthur. Fallait voir, imagine notre espoir. On laissait nos cœurs au pouvoir des fleurs.
Jasmin,
lila, c'était nos divisions, nos soldats, pour changer tout ça.
Changer le monde, changer les choses avec des bouquets de roses. Changer les femmes, changer les hommes avec des géraniums.
Je me souviens, on avait des chansons, des paroles, comme des pétales et des corolles. Écoutez en rêvant la petite fille au tourne-disque folle.
Le parfum, imagine le parfum. L'Éden, le jardin, c'était pour demain.
Mais demain, c'est pas.
Les choses avec des bouquets de fleurs. La guerre au vent, l'amour devant, grâce à des fleurs, des choses.
Présence dans le Tarn-et-Garonne, 93.3.
Du sport, de la sueur, mais surtout une immense chaîne de solidarité. Il y a quelques jours, je me suis rendu sur les pentes du Pic du Gers à Lourdes pour la deuxième édition de la course organisée par le 35e RAP de Tarbes. Un véritable kilomètre vertical, 3 km de montée sèche, 500 mètres de dénivelé positif et un double défi. La veille, le vendredi, ce sont d'abord tous ceux qui portent l'uniforme qui se sont élancés, les militaires bien sûr, mais aussi les policiers, les gendarmes et les sapeurs-pompiers venus mesurer leur cohésion sur ce tracé redoutable. Le lendemain, place aux civils venus courir en nombre pour la bonne cause sous le regard du préfet des Hautes-Pyrénées, Jean Salomon, et de la chef de corps du régiment, le colonel Marie Delazère. Car au-delà de l'effort, l'objectif est avant tout de récolter des fonds pour soutenir les militaires blessés, qu'ils soient touchés physiquement ou psychologiquement. Sur place, j'ai rencontré l'organisateur de l'événement, l'adjudant-chef Benjamin Moreau. Il nous explique comment est née cette formule solidaire. On l'écoute.
Oui, c'est parti d'un échange très simple avec un camarade là qui est très sportif et qui m'a dit sur Tarbes, ce serait bien d'organiser quelque chose dans les Hautes-Pyrénées type kilomètre vertical qui n'existe plus ou peu. Et de son idée à lui et de la mienne d'accompagner les blessés et de faire ça à leur profit, et ben est née cette course.
Alors je sais qu'il y a dans cette course il y a deux journées. Celle d'hier était consacrée, je crois, à tout ce qui portait un uniforme et aujourd'hui au tout public.
Effectivement, hier on était accompagné par nos camarades de Bercheny, les GSC de Pau, les gendarmes, les policiers également. Tout ce qui porte un uniforme dans les Hautes-Pyrénées est venu s'associer à nous.
Comment ça s'est passé ?
Eh bien parfaitement, écoutez, on n'a pas eu de blessés, tout le monde avait le sourire et on a un beau record pour le vainqueur là qui est en 22 minutes.
22 minutes à la montée ?
Et je pense que ce sera battu encore aujourd'hui par un civil qui sera certainement plus affûté.
On voit que vous parlez de ce qui est uniforme, l'armée d'un côté souvent, la police de l'autre. Est-ce que ce genre d'organisation, de manifestation, ça permet aussi de vous retrouver ?
Oui, effectivement, on a une belle synergie entre nous. On se connaît du fait de la stabilité d'implantation sur le bassin Tarbais et de gens très actifs, hein, notamment chez nos amis gendarmes, pompiers, policiers, que ce soit municipal ou national.
D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire donc la finalité de cette organisation il y a les dossards, il y a un petit peu d'argent. C'est quoi la finalité ?
Oui, bah là, comme vous l'avez vu, hein, on a une exposition de tableaux de nos blessés, hein, des blessés du régiment, qui sont également des artistes. Le milieu associatif et institutionnel, là, représenté par tous les stands que vous voyez ici, là, qui nous accompagnent. Et l'idée, c'est vraiment de communiquer sur la cause, effectivement, rentrer les fonds pour organiser ensuite derrière des activités au profit des blessés, vraiment ciblées, et également faire un don à une ou plusieurs associations qui soutiennent les blessés.
Alors, les blessés, ce sont des blessés qui ont été, malheureusement, comme vous le dites, blessés pendant leur service.
Oui, effectivement, c'est des blessés qui ont été blessés suite à des accidents en service, à la fois physiques et post-traumatiques.
D'accord. Et du coup, comment vous les aidez il y a une commission qui existe. Quelqu'un qui est blessé, le régiment ne le prend pas en charge ?
Oui, effectivement, le régiment le prend totalement en charge, hein, du début de sa blessure jusqu'à la fin, en continuité et dans la durée, par le biais de commissions trimestrielles, mais surtout d'un accompagnement permanent, par le biais de l'armée, de la chaîne ASA, Assistance Sociale des Armées, et également des associations extérieures et de l'ONAC VG65 qui les suit aussi après leur vie de militaire.
D'accord. Donc c'est une belle opération que vous faites ici.
Je ne vais pas vous dire non.
Ouais. Deuxième édition, et il y aura une troisième, quatrième.
Eh ben écoutez, ça fleurit d'année en année. La météo est avec nous. La ville de Lourdes nous accueille toujours comme il faut. Et les partenaires sont présents, donc il n'y a pas de raison que ça s'éteigne. On est réellement suivi et accompagné par la communauté civile qui est bienveillante et s'associe à nous dans cet effort.
Vous appelez qui ? Vous avez remercié la ville de Lourdes tout à l'heure. Mais...
Oui, et effectivement, tous les participants là, qui ne sont pas forcément liés au ministère des Armées et à l'uniforme.
C'est aussi quelque chose de bien, parce que souvent, l'armée, il y en a qui en ont un bon regard, d'autres un peu moins, mais surtout avec ce qui se passe aujourd'hui. Vous êtes heureux que des civils viennent s'associer à quelque chose que vous organisez
Oui, totalement. Bah, c'était le cas l'année dernière et vous voyez, c'est renouvelé cette année.
Ouais. Ça a été compliqué de l'organiser. Enfin, je veux dire, bon, les autorisations pour le Pic du Cher, vous les avez eues, mais ensuite, ce parcours que vous dites, vous l'avez pratiqué, vous l'avez essayé.
Oui, à plusieurs reprises. Hein. Il a fallu qu'on définisse la trace finement, en partenariat aussi avec les vététistes, notamment le Grand Arbre, hein, s'assurer qu'on puisse travailler et se faire plaisir ensemble.
T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai sécher tes larmes au vent des quatre points cardinaux. Respirer la violette à Parme et les épices à Colombo. On verra le fleuve Amazone et la vallée des orchidées. Et les enfants qui se savonnent le ventre avec des fleurs coupées. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Allons voir la terre d'Abraham, c'est encore plus beau qu'on le dit. Il y a des Van Gogh à Amsterdam qui ressemblent à des incendies. On goûtera les harengs crus et on boira du vin de Moselle. Je te raconterai le succès que j'ai eu un jour en jouant ce ganarelle. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'amènerai voir Liverpool et ses guirlandes de haddock. Et des pays où il y a des poules qui chantent aussi haut que les coqs. Tous les livres les plus beaux de Colette et de Marcel Aimé, ceux de Rabelais ou de Léoto, je suis sûr que tu vas les aimer. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Je t'apprendrai à la Jamaïque la pêche de nuit au Lamparo. Et je t'emmènerai faire un pique-nique en haut du Kilimandjaro. Et tu grimperas sur mon dos pour voir le plafond de la Sixtine. On sera fasciné au Prado par les Goya ou les Ménines. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. Connais-tu en quadriphonie le dernier tube de Mahler? Et les planteurs de Virginie qui ne savent pas qu'il y a un hiver. On en a des choses à voir jusqu'à la Louisiane en fait, où il y a des types qui ont tous les soirs du désespoir plein la trompette. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Oublie-les, les petits cons qui t'ont fait ça. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Je t'en supplie, mon petit loup, ne pleure pas. T'en fais pas, mon petit loup, c'est la vie, ne pleure pas. Tu oublieras, mon petit loup, ne pleure pas. T'en fais pas.
Présence à Bagnères-de-Bigorre, 88.9.
Et on retrouve le journal à mi-journée à 12h29. Bonjour, c'est Groux.
Bonjour à tous. Dans l'actualité, le Stade toulousain est champion de France pour la quatrième fois consécutive. Les Rouges et Noirs se sont imposés 28-20 face à Montpellier samedi soir en finale du top 14 au Stade de France. Une rencontre marquée par une interruption d'une dizaine de minutes en seconde période en raison d'un violent orage au-dessus de Saint-Denis. Conséquence directe de cette météo, les célébrations prévues dimanche soir place du Capitole à Toulouse ont été annulées. La mairie a pris cette décision en raison d'un risque d'orage violent alors que la Haute-Garonne était placée en vigilance orange par Météo France. Les joueurs n'ont donc pas pu présenter le bouclier de Brennus aux supporters comme le veut la tradition. Ces orages ont d'ailleurs traversé une partie de l'Occitanie dimanche. Après plusieurs jours de canicule, de fortes pluies, de la grêle et des rafales de vent ont touché plusieurs départements de la région. Les autorités ont appelé à la prudence face à ces périodes parfois localement violentes. Malgré ce retour de la pluie, la sécheresse reste très préoccupante en Haute-Garonne. La préfecture a renforcé les restrictions d'eau dans plusieurs secteurs du département. département. Certains cours d'eau sont désormais placés en situation d'alerte renforcée, voire de crise, le niveau le plus élevé. Les autorités appellent à l'ensemble des usagers à économiser l'eau afin de préserver une ressource de plus en plus fragilisée par les fortes chaleurs. Et dans le reste de l'actualité, à Toulouse, l'association Sauvegarde de l'enfance Haute-Occitanie joue son avenir. Elle accompagne près de 2300 enfants en situation de handicap et comparée devant le tribunal de commerce de Montauban. En cause, un déficit de 5,4 millions d'euros. Les salariés redoutent une liquidation et craignent que les enfants et leurs familles ne soient les premières victimes de cette situation. Enfin, un nouveau centre de santé ouvrira prochainement ses portes à Toulouse. Sa particularité, les consultations seront assurées par des médecins spécialistes retraités, sans dépassement d'honoraires. Une vingtaine de praticiens ont déjà rejoint le projet. L'objectif est de faciliter l'accès aux soins face au manque de spécialistes et de proposer des consultations accessibles à tous. Voilà pour l'essentiel de l'actualité.
Merci beaucoup Clémence Roux, qui est à l'école étudiante, à l'école de journalisme sur Toulouse. On la retrouvera bien sûr dès demain. Et en attendant, à 13h, vous avez l'habitude, ça sera la rédaction française de Radio Vatican. On va partir dans les coulisses de l'organisation de l'accueil des pèlerins à Lourdes, particulièrement tout ce qui est restauration, puisque Mathias Thériault aujourd'hui s'entretient avec deux personnes qui ont responsabilité le self Saint-Michel.
Présence. De passage à Lourdes. Proposé par Mathias Thériault.
Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, dans cette émission de passage à Lourdes, nous allons aller plutôt du côté de l'envers du décor. Pourquoi ? Parce que Lourdes, vous connaissez, la grotte, les basiliques, et puis également tout ce qui concerne les processions, les messes, les pèlerinages qui incessamment viennent à Lourdes. Il se trouve que pour porter tout cela, il faut une logistique, il faut de l'hébergement et de la restauration. Aujourd'hui, nous recevons dans cette émission Françoise. Bonjour Françoise.
Bonjour.
Françoise Barrero, vous êtes depuis 36 ans au service du Self Saint-Michel.
C'est ça.
Pour ceux qui ne le connaissent pas, nous allons découvrir ce qui s'y vit. Et vous, Yannick Garoyan, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes le chef et le gérant de ce Self Saint-Michel.
C'est ça, oui.
Je disais en commençant que ce qu'on connaît de Lourdes, c'est ce qui est montré ou à la télévision ou dans les médias. Vous, tout au long de la saison, l'un et l'autre, c'est pas ce que vous voyez de Lourdes. Vous êtes dans les coulisses, non,
Françoise ? Tout à fait.
Françoise ?
Non, oui, dans les coulisses, mais quand même, on a la chance de pouvoir parler aux gens.
Oui, et puis, vous êtes non seulement dans les coulisses, mais vous êtes aussi en contact.
Voilà, c'est ça, oui.
C'est-à-dire, vous rencontrez les pèlerins.
On rencontre les pèlerins français, étrangers.
Alors, je disais que vous êtes dans les coulisses, mais vous êtes là depuis longtemps. Vous, Françoise,
oui.
Voilà 36 ans.
36 ans, oui. Et si c'est à refaire, je le referai. Et bon, mon travail me plaît, il y a une certaine liberté. Et bon, comme je disais, j'aime ce que je fais. Ça amène à chaque jour son lot différent, même si on peut penser que c'est routinier, pas du tout. Parce que le matin, on est souvent à la préparation des entrées, des desserts. Il faut gérer toujours les imprévus, des personnes qui arrivent en plus, des pèlerinages qui mangent plus tôt. Enfin, c'est toujours varié. Moi, c'est ce qui me plaît.
Et vous fabriquez des dizaines de milliers de repas. Parce que c'est pas une petite échelle.
L'année dernière, nous avons fait 110 000 repas.
110 000,
110 000 repas, oui.
Oui. On va parler de la vie du self, mais je m'attache à vos personnes. Vous, Françoise, vous êtes née à Lourdes.
Oui, c'est ça.
Ça n'arrivera plus, ça n'arrive plus, puisqu'il n'y a plus de maternité à Lourdes.
Oui, j'ai appris ça.
Donc vous faites partie des Lourdaises natives de Lourdes.
Oui, vous
êtes fière d'être née à Lourdes ?
Fière, je ne sais pas, parce que bon, c'est tellement, voilà, c'est comme ça. Je ne peux pas dire que je sois fière. Enfin, je ne revendique pas, souvent les clients me le demandent. Mais vous êtes Lourdaise ? Oui, mais non.
C'est comme ça.
C'est comme ça, voilà. Non, je ne dis pas, je n'en fais pas une fierté.
Votre nom de famille nous laisse entendre que vous êtes aussi, peut-être, dans votre famille originaire de l'autre côté des Pyrénées, non ?
Des Pyrénées, oui, de l'Andalousie, par mon père.
Donc votre papa est... Est espagnol ?
Mon papa était espagnol. Il a quitté l'Espagne sous Franco, la guerre d'Espagne. Il est arrivé à 17 ans. Et il est venu sur Bordeaux d'abord. Et puis après, il a travaillé. Et puis voilà, il a rencontré ma mère.
Et qui était une bigourdane.
Qui était bigourdane, voilà.
Et qui est une bigourdane d'Argelès.
D'Argelès, oui.
À côté de Lourdes.
Oui.
Et aujourd'hui, vous avez, bon, vous êtes là, ancré dans ce territoire.
Oui, tout à fait.
Quand on est lourdaise comme vous, avant que vous n'entriez dans l'univers du monde du pèlerinage, comment on regarde tout ce qui se passe dans la ville basse, comme on dit ? Parce que à Lourdes, il y a 15 000 habitants, c'est une petite bourgade.
Oui, oui, oui.
Il y a les Lourdais.
Oui, il y a les Lourdais.
Et puis il y a le phénomène international qui se déroule dans la ville basse, parce que géographiquement, c'est en bas.
Oui, tout à fait.
C'est une étrangeté, comment vous diriez, quand on est jeune, quand on est enfant.
Mais moi, j'ai toujours travaillé en bas, parce que je vois, j'ai des frères et sœurs, non, eux, ils ne travaillent pas du tout. Mais ils ne descendent jamais, pratiquement. Vous voyez, c'est un autre univers, entre parenthèses. Vous voyez, quand moi, je suis en repos, je descends rarement, parce que bon, j'ai besoin de calme. Mais eux, non, ça ne les interpelle pas de venir. Ils restent en haut, quoi. Ils connaissent très peu. Enfin, ils voient la grotte, ça leur arrive.
On verra dans le témoignage de Yannick après qu'il y a quelque chose de similaire. Mais ce que vous êtes en train de dire, c'est que dans cette ville mondialement connue, qui reçoit plus de 3,5 millions de pèlerins par an, du monde entier, les Lourdais, certains ne connaissent pas
le bas.
Le bas de la ville, c'est-à-dire le sanctuaire.
Ou alors ils y vont pour des... style, il va y avoir le pèlerinage gitan, quand il y a les chevaux là en novembre.
Quand il y a les militaires aussi.
Quand il y a les militaires.
Les défilés militaires.
Voilà. Et puis on dirait que ça leur amène, comment vous dire, tiens, on va se dépayser, on descend bas. Certains, c'était ça. Vous voyez, on descend. Bon, quand on était gamine, je me rappelle, ils descendaient les jeunes pour draguer quand il y avait... la dragouille, ça, c'est vrai. Mais après, c'est vrai que c'est deux mondes à part, carrément. Les ceux d'en haut restent en haut, ceux d'en bas restent en bas. C'est ceux qui ne connaissent pas le travail, je m'entends. Ceux qui ne connaissent pas, moi j'ai des amis qui ne travaillent pas dans le secteur restauration ou magasin, rarement ils descendent.
Vous Yannick, vous avez vécu pratiquement 30 ans comme militaire à Tarbes, pratiquement. Enfin, vous avez une carrière où vous avez quand même aussi un peu bougé. Sans jamais être venu ou quasi jamais venu à Lourdes.
Jamais.
Jamais. Donc jamais. À 20 km de Lourdes, vous êtes militaire à Tarbes et Lourdes, c'est un monde à part.
Voilà, tout à fait. Moi, je suis de Provence, donc en Provence, c'est vrai, on entendait parler de Lourdes. Et le jour où j'étais muté à Tarbes, j'ai su peut-être un mois ou deux mois après mon affectation que j'étais à 20 km de Lourdes. Et là, j'ai dit, tiens, putain, je suis à côté de Lourdes, je vais aller visiter.
Ah oui.
Sinon, je ne connaissais pas du tout. C'est comme le trajet qui passe à côté de Paris. Ah, mais je suis à Paris, à la Tour Eiffel.
Oui, oui.
Ouais, ça fait le même effet, quoi.
Donc, vous, votre histoire, Yannick, c'est que, comme vous nous l'avez dit, vous êtes natif de Provence.
Oui.
Vous passez votre CAP de cuisine à Marseille.
Marseille, oui.
Et puis, vous faites l'armée. À Tarbes.
Je fais l'armée à Tarbes.
Et vous y restez.
Et j'y reste.
Et 30 ans d'armée.
30 ans d'armée, oui, 30 ans de service.
Toujours comme ou cuisinier ou dans cet univers-là.
Dans la restauration. Bon, il faut savoir que dans l'armée, on a deux métiers. Hein. On a la spécialité, donc la cuisine, et le militaire. Donc j'ai toujours été dans les cuisines, en restauration collective. Et puis au fil des années, je suis monté en grade et j'ai pris plus de responsabilités. Donc j'arrivais à gérer un ordinaire de 700 à 1000 personnes et un cercle mess entre 200 et 300 personnes.
Et vous étiez donc au service du back-office, quoi. Il faut aider les militaires qui vont les militaires du rang et puis après les sous-officiers, officiers, voilà. Exercer leurs fonctions. Vous avez aimé ce métier dans l'armée ?
Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Et puis après, j'ai fait quand même... cette opération à l'extérieur. Donc, on visite un peu de pays.
Bon, vous êtes allé où ?
Il y a des circonstances. Alors, j'ai fait deux fois le Liban. J'ai fait deux fois la Macédoine. J'ai fait une fois le Kosovo. J'ai fait le Gabon. Et le RCA. Et je ne sais plus quel pays, il y a un pays d'Afrique. Voilà. Et j'ai fait aussi le PMI à Lourdes.
Ah. Donc ça existait quand même, Lourdes, dans votre univers à un moment, à travers le pèlerinage militaire international.
Si vous voulez, à une époque, le pèlerinage de Lourdes était géré par des régiments. Il y avait quatre régiments qui tournaient. Et une fois tous les quatre ans, c'était mon régiment qui s'occupait de la logistique nourriture pour les pèlerins. Donc on nourrissait un peu plus de, je me souviens plus, mais plus de 1000 personnes. 1000 repas par jour, par service.
Yannick et Françoise, vous travaillez ensemble depuis 15 ans ?
15 ans, oui. Mmh,
je pense que c'est ça. Oui, 15 ans. Quel...
J'imagine que quand on est dans le métier de la restauration, bah, faut y aller, quoi. Il faut de l'action, action, action. On n'a pas le temps beaucoup de se parler trop, de raconter sa vie. Oui. Vous avez appris à vous découvrir, à vous connaître quand même, ou bien ce qu'on est en train de se dire là, Françoise, vous dites, ah bon, t'as fait ça, t'es allée là ?
Non, non, on parlait. Oui, non. Je connaissais son parcours. Parce que c'est vrai qu'il en parle souvent, hein,
militaire.
Oui. Il en parle souvent. Hein.
Non, il faut. Puis on peut pas trahir l'un sans l'autre. Si moi je suis pas là, faut qu'elle sache et ainsi de suite. Si elle est pas là, moi faut que je sache.
Parce que dans la deuxième partie de cette émission, on va parler du job, du métier, c'est-à-dire vous êtes l'un et l'autre au service du Self Saint-Michel, qui est une des entrées majeures du sanctuaire de Lourdes, l'entrée Saint-Michel. Et vous nous l'avez dit, vous fabriquez beaucoup, beaucoup de repas. Vous travaillez l'un et l'autre depuis quinzaine d'années ensemble. Donc, vous, il y a votre carrière. Et puis après, vous avez commencé à travailler au CELP Saint-Michel. Vous avez toujours travaillé, Françoise, au CELP Saint-Michel?
Non, j'avais travaillé dans des hôtels, magasins de vêtements. Mais
ça a été la majorité de votre carrière.
Ah oui, ça a été la majorité, oui.
Et vous faisiez les saisons?
Oui, pendant longtemps, je faisais les saisons. Après l'hiver, soit je faisais les saisons de...
Et donc vous avez appris sur le tas. Vous n'étiez pas cuisinière de métier.
Non, mais je suis pas cuisinière là. Enfin,
vous faites les entrées.
Ah oui, j'ai fait les entrées, les serres, et même maintenant vu que.
Elle dirige.
Oui, je dirige.
Elle surveille.
Je surveille.
Et il faut.
On croirait que c'est aux militaires de surveiller, mais c'est vous, Françoise, qui surveillez.
Ah oui, mais moi en salle, je m'en occupe pas. C'est à qui s'en occupe entrée des serres. Moi, je peux pas. Comment dire, quand je suis en cuisine, je peux pas aller voir ailleurs, c'est pas possible. Je peux jeter un coup d'œil, mais je peux pas. Donc il faut quelqu'un derrière qui puisse assurer.
Donc Françoise est responsable de la salle, qui est une grande salle, hein, qui peut accueillir des dizaines et des dizaines de convives. Enfin, je sais plus combien.
On a 400 places en bas, assises. Donc ça tourne, on peut monter jusqu'à 1000 repas facile.
Et donc l'un et l'autre, vous êtes ensemble dans le travail depuis une quinzaine d'années. Vous avez trouvé assez vite cette complémentarité entre vous.
Oui, juste après, pas tout à fait au début, parce que j'étais que cuisinier, quoi. Et après, quand j'ai commencé à être responsable, là, on a commencé à
s'organiser comme ça.
Voilà.
Ouais. Moi, je trouve qu'on se complète bien, parce que des fois, moi, bon, je suis peut-être, je vais le dire.
Vous êtes vive.
Oui, je vais le dire.
Pareil.
Des fois, c'est lui, moi j'atténue, vice-versa. Voilà, on se complète. Il me dit, vas-y doucement, ou moi je lui dis doucement. Enfin, c'est surtout moi par rapport s'il y a quelque chose qui ne va pas.
Alors, vous faites partie d'un grand ensemble qui s'appelle l'Hospitalité Notre-Dame de Lourdes. Mais ça, on ne l'a pas encore dit.
Oui.
Parce que, au sein du sanctuaire de Lourdes, les premiers serviteurs d'accueil du sanctuaire, ce sont des hospitaliers et des hospitalières, c'est-à-dire des bénévoles. Qui gère toutes ces infrastructures d'accueil, d'hébergement et de restauration.
Oui, tout à fait.
Et donc, ça veut dire que vous, votre responsable, au-dessus de vous, c'est un président d'une association.
C'est ça. Monsieur Pesé. Et à Monsieur Chevalier, le trésorier.
Et donc, vous, comment vous regardez cette... C'est une institution, alors, de l'hospitalité. Comment vous voyez ça? Ça a été créé il y a très longtemps.
Oui,
ce sont les premiers serviteurs de Lourdes.
Oui, je crois que oui. D'après, ça fait très très longtemps qu'existe l'hospitalité, oui.
Donc aujourd'hui, l'un et l'autre, vous diriez, si c'était à refaire, on changerait rien. On est très heureux d'être dans cet univers du monde du pèlerinage.
Voilà, tout à fait. Que ce soit au point de vue travail, au point de vue relationnel.
Puis on a de bonnes relations avec les patrons, quand même.
Oui.
Les patrons, c'est ceux qu'on a cités,
avant. Oui, monsieur. C'est vrai qu'ils nous font confiance et c'est moins. Bon, j'en ai connu plusieurs. Chacun met leurs qualités et leurs défauts. Mais c'est vrai que ça a évolué, quoi. Ça a évolué parce qu'avant, comme je vous disais, c'était plus strict. Maintenant, c'est plus. C'est plus souple, quoi, on va le dire. Et malgré tout, la priorité, c'est les hospitaliers, les clients. Mais ils nous font confiance. On travaille en bon, c'est vrai.
Nous allons nous arrêter quelques instants. Juste après, on parlera vraiment du métier. Comment ça se passe chaque jour, ce que vous faites l'un et l'autre, comment on accompagne les pèlerins et les hospitaliers dans leur rythme à Lourdes. À tout de suite.
À l'ancien qui se tient penché sur le monde, à l'enfant insouciant perdu dans la ronde, à celui qui attend que vienne sa chance, au meilleur d'entre nous noyé d'indifférence, à tous ceux qui ont eu foi en l'avenir, même celui qui n'a plus d'espoir à saisir, à tous ceux qui ont tant perdu mais nous demandent, dites-nous comment faire pour avancer ensemble. Respire, tout le monde respire, tout le monde espère, ici debout les pieds sur terre, unis comme des frères, parce qu'on a la vie, parce qu'on a des à tous ceux que j'aime, à nos pleurs, nos sourires cachés en nous-mêmes, à celui dont la nuance est force et peut déplaire, à toi l'ami endormi sous le pain du cimetière, aux rebelles incompris, aux héros d'hier, de demain, d'aujourd'hui et à la terre entière, à tous ceux qui ont tant perdu mais nous demandent, dites-nous comment faire pour avancer ensemble.
Nos invités aujourd'hui sont Françoise Barrero et Yannick Garoyan. Je disais en commençant cette émission qu'on rentre un peu dans les coulisses de ce qu'est Lourdes. C'est-à-dire, la restauration pour vous, puisque vous êtes pour l'un, Yannick, chef gérant d'un self qui s'appelle Self Saint-Michel. Et vous, Françoise Barrero, vous êtes responsable de salle dans ce même self. On va peut-être entrer dans ce qui fait le quotidien de ceux que vous servez chaque jour. Vous avez deux services, un le midi et un le soir.
C'est ça.
Vous êtes obligé de vous adapter au rythme du monde du pèlerinage, non? vous devez tenir compte du rythme de la vie des services et des pèlerins.
Oui, au point de vue...
Des horaires.
Des horaires et tout ça, oui. Oui, ben après, eux, ils s'adaptent à nos horaires. Mais quand ils ne peuvent pas, ben on essaye de s'adapter à eux.
Oui.
Voilà. Pour qu'ils puissent avoir
Oui, c'est pour ça qu'on a étendu le service du midi. On a étendu d'un quart d'heure. Parce qu'avant, on fermait à 13h30. Maintenant, c'est.
On ouvre avant, on ferme plus tard.
Oui, voilà.
Donc aujourd'hui, quels sont ceux qui viennent manger chez vous, en fait? Ce sont des hospitaliers.
Les hospitaliers, les brancardiers qui viennent aider les malades. Donc, et puis de tout bord, quoi.
Les employés de la grotte.
De la France, de toute la France. Plus, actuellement, on a les Nord-Américains qui sont là.
Donc, on leur fait de la cuisine française.
Voilà.
Oui. Voilà, donc voilà. Vous voyez un peu défiler le monde entier quand même.
Ah oui, oui. Tous les pays pratiquement.
C'est vrai.
Et alors que les pèlerins ou ceux que vous servez, ils sont pressés, ils sont exigeants, ils sont. Ça se passe comment?
Exigeants.
Oui.
Bon, après on a quelques. Comment dire, déjà alors il y a des allergies, alors ça c'est pas évident.
Il y en a de plus en plus.
Oui, il y en a de plus en plus.
Pressé, non, oui,
donc
oui.
Donc on
non.
essaye de faire au mieux pour les nourrir.
Oui.
Puisqu'on a, bon après, on a des exigences. Non, il n'y a pas de. Ils mangent tout. Ça râle des fois, mais. Oui. Vous savez, les Italiens, les Espagnols, ils aiment la viande bien cuite, l'autre moins cuite.
Ah, vous connaissez toutes les habitudes alimentaires, l'un et l'autre.
Oui.
Mais exigeants, non, pas exigeants.
Non, ils sont pas.
Non.
Donc, ça veut dire que quand vous savez que vous avez des groupes d'Espagnols, d'Italiens, d'Américains, de que sais-je, vous savez qu'il peut y avoir à modifier un peu les menus ou à modifier.
Alors, des fois, on le sait au dernier moment.
Donc, on peut pas.
C'est à midi pour
non,
midi.
On le fait pas.
C'est à midi moins 5 pour midi, quoi.
Non, on le fait pas parce
mais
que.
Mais on fait au mieux parce que, par exemple. S'il y a un repas avec du gluten, bon, on a dans la réserve, j'ai des pâtes sans gluten, des biscuits sans gluten. Enfin,
oui, mais on n'adapte pas les menus par rapport à la nationalité. Parce que de toute manière, les Italiens n'aiment pas nos pâtes, donc on ne va pas leur faire des pâtes spéciales. Ça, c'est sur les Italiens.
Et pourtant, c'est des pâtes italiennes.
Non, on n'adapte pas. Hein.
Donc, vous, pendant 8 mois, vous voyez défiler des pèlerins, mais vous ne voyez jamais ce qu'ils font en dehors de ce qu'ils viennent vivre chez vous, c'est-à-dire manger.
Tout à fait.
Donc vous ne voyez rien de la vie spirituelle, on va dire, du sanctuaire.
On voit quand, des fois, on va faire un tour à la grotte, ou là, on les voit, mais voilà, ça s'arrête là.
Et donc vous ne savez ce qu'ils vivent que parce qu'ils vous racontent.
Voilà. Oui, quand ils voient la gare, à l'aéroport, on a dû attendre, soulever, ça, tout ça, on le sait. Enfin, on s'imagine quand ils vont aux piscines, hein, parce que le service piscine, le service... La grotte, enfin tout, ils nous racontent.
Les cérémonies
qu'ils y sont là depuis en plein soleil ou le soir. Non, ça, c'est vrai, mais on n'imagine pas quand même. Parce que c'est pour ça que j'avais soulevé, justement, M. Chevalier, de dire que, je ne sais pas quand, qu'il me demande de suivre un peu un hospitalier pour que peut-être qu'on soit peut-être plus tolérant. Quand des fois ils arrivent un peu en retard, nous dire voilà. C'est vrai que ça, j'aurais. Parce que quand ils donnent manger aux malades, et souvent je leur explique, il y a des malades qui sont plus longs. Donc c'est vrai que la dame, elle arrive, je suis en retard, on ferme la porte, bon on la prend quoi, on la prend, on la fait manger au-dessus. Mais c'est vrai que tout ça, il faut le prendre en compte.
Donc vous finissez par. Alors il y a de l'agacement parfois parce qu'il faut tenir les services,
oui,
mais être admiratif quand même de.
Ah oui, moi je suis. Ah, oui,
parce qu'ils sont.
Parce que souvent je
suis. C'est des journées longues quand même.
Qui mais, Ah oui. Ah non, je pense.
De quoi? Non, je veux dire au point de vue travail, parce que c'est vrai que c'est des journées longues, mais c'est vrai que quand quelqu'un arrive à 9h moins une quart pour manger.
Oui,
on
c'est
le nourrit,
vrai.
On le nourrit.
On le nourrit, mais on va pas.
Voilà. Mais on va pas le.
Oui.
Voilà.
Oui, on va pas l'encourager.
On va pas le refuser.
Refuser, vous n'allez pas le refuser.
Mais souvent, moi-même, je le dis, je dis, franchement, ce qu'ils font, je le ferai pas. Quand je les vois en plein soleil, quand il pleut, ils sont là, à tourner, enfin,
à aider.
Ils payent tout, il faut tout savoir. Bon, ça, vous le trajet et tout, le logement. Et c'est vrai que je dis, franchement, ils ont mon admiration. Honnêtement, hein, parce que c'est vrai que.
Parce que Lourdes ne serait pas Lourdes sans tout cet élan de générosité.
Ah
quoi.
Oui, tout à fait. Oui. Il faut des personnes, ceux qui font Lourdes, en fait.
Lourdes, ça serait c'est une pas ville normale.
Voilà. Parce que s'il n'y avait pas tous ces pèlerins, toutes ces personnes qui aident, voilà, il n'y aurait pas Lourdes. C'est pour ça qu'on doit être peut-être...
Lourdes vit grâce à ces pèlerins.
À ces personnes, oui, tout à fait.
Est-ce que vous avez le temps d'aller à la grotte, l'un et l'autre?
Oui.
Moi, oui.
En coupure, ça m'est arrivé. Mmh. D'aller allumer des cierges aussi, ça m'est arrivé.
Ah oui, ça oui.
Le seul truc que j'ai pas visité, c'est les piscines.
L'eau de la source dans laquelle il faut se baigner.
Voilà, c'est le seul truc que j'ai pas visité. Je l'ai vu dans un film, mais j'ai pas été.
Et vous, Françoise, vous avez le temps d'aller à la grotte?
Moi, je vous avoue, c'est l'hiver. L'été, ça m'arrive quand on me demande de mettre un cierge. Ça, j'y vais. Mais c'est l'hiver, souvent, que j'y vais.
Parce que vous êtes lourdaise et que les Lourdais se réapproprient, on le dit ça d'ailleurs.
C'est vrai, c'est vrai.
Le sanctuaire et la grotte l'hiver, quand il n'y a plus les pèlerins.
Oui, parce que moi j'y travaille et je vois des Lourdais plus l'hiver. C'est vrai, il y a plus de calme, c'est plus serein et on a l'impression qu'on peut plus communier.
Lorsque vous avez à témoigner de ce que vous faites, ou à raconter ce que vous faites à des gens qui ne connaissent pas trop Lourdes, ce n'est pas toujours facile de trouver les mots pour dire...
Moi, on me demande ce que je fais. Je nourris les pèlerins. Les pèlerins, les brancardiers. C'est quoi un brancardier? Les brancardiers, ceux qui amènent les malades et qui poussent les petites charrettes bleues. Donc là, les gens, ils comprennent.
Ouais.
Voilà.
Et vous, Françoise, quand vous avez expliqué votre métier?
Moi, je ne sais pas. Non,
vous,
non.
Vous cachez le fait que c'est à Lourdes, enfin, que c'est dans le sanctuaire?
Non, j'ai jamais eu. Comme vous disiez, toute leur fierté, je ne sais pas. Mais moi, je suis contente et je ne vais pas le cacher, ni à le monter. Mais voilà, je vous dis, je travaille dans un self. Et voilà, je sers les hospitaliers, ceux qui s'occupent des malades, moi, je dis.
Pour l'un et l'autre, et ce sera ma dernière question, en fait, vos carrières sont derrière vous, si je puis me permettre. Mmh. Je ne manque pas de respect, j'espère.
Mais... Non, mais c'est ça, vous avez raison.
Bon, il y a quelques années peut-être qui restent de travail. Mmh. Vous envie, il y a une transmission réfléchie pour la suite, parce que votre self, il va durer après vous. Le self Saint-Michel.
Oui.
Il va falloir l'envisager, ça.
Eh bien, normalement, cette année. Hein.
Pour vous, Françoise.
Et pour Yannick.
Et pour Yannick.
Ouais.
Vous tournez la page cette année.
Ouais. Moi, je vais essayer
de tourner. Sans tourner, on va dire.
C'est-à-dire.
On aura toujours un œil peut-être dessus, peut-être donner des. Comment dire ?
Des conseils ?
Des conseils.
Des consignes.
Si on m'appelle pour... je serai là.
Oui.
Voilà.
Parce que ça vous tient à cœur que ça continue ?
Oui, en plus j'aime bien, c'est vrai, j'aime bien l'équipe, j'aime bien nos patrons qui sont très, très sympathiques. Donc ça m'embête de...
Voilà. De le laisser à volo. Voilà. Moi je vous le dis, c'est vrai, oui. Parce que je ne dis pas qu'on est indispensable, c'est pas ça quand on le dit. Parce que après toi, bien sûr... Mais moi, j'en ai vu défiler des personnes. Je peux vous dire que j'en ai vu. Et des gens, un peu comme dans le même esprit, il n'y a pas, il y a une poignée, je peux vous dire. Ils le font peut-être, c'est un travail. Mais nous, il y a autre chose.
C'est pas la même époque.
C'est vrai, il y a autre chose.
Vous prenez
c'est comme celui qui ramasse les papiers par terre à la grotte. C'est sûr que c'est un balayeur, il ramasse les papiers, que ce soit la ville, là, n'importe où. Mais il n'aura pas la même chose de ramasser les papiers à la grotte parce qu'il y a le père et le reine, la dame qui va lui demander quelque chose. Que peut-être à Tarbes ou X, voilà, il le fait incognito. Vous voyez, je ne sais pas si vous...
Oui. C'est bien. Donc il y a l'esprit du lieu.
Voilà, l'esprit
auquel
du lieu.
Vous êtes attaché.
Voilà.
Et vous serez là, même si vous n'êtes pas toujours dans le quotidien, vous serez là pour donner le coup de main s'il y avait besoin.
On sera disponible. Oui.
Merci beaucoup pour vos témoignages. Donc je rappelle Françoise Barrero, 36 ans de carrière au sein de cette restauration Saint-Michel. Mmh. Au cœur même de l'espace sacré du sanctuaire. Et vous, Yannick Egaroyan, chef gérant pour la dernière saison. Donc.
La dernière saison, oui. Mais bon, en février, je serai sûrement là.
Merci beaucoup pour votre témoignage.
Merci. Au revoir. Merci.
Et puis bonne saison à Lourdes.
Oui, merci.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Présence de passage à Lourdes, proposée par Mathias Terrier. L'actualité près de chez vous, c'est aussi sur internet radioprésence.com et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Présence à Mirande 104.2
Radio Vatican.
Le journal.
Le journal.
Solennité des Saints Pierre et Paul, jour de fête pour l'église de Rome et pour la ville éternelle. Léon XIV a